aujourd'hui, 20 mars, à votre magazine radio in situ, en spécial FIFA. Toute l'émission est consacrée au Festival international du film sur l'art qui bat son plein jusqu'au 28 mars en compagnie de 5 chroniqueurs de l'équipe in situ, m'incluant comme animatrice et chroniqueuse, et qui feront des recommandations de films dans le cadre donc du Festival international du film sur l'art. Alors, très bonne émission à l'antenne de Radio Centre-Ville 102,3. Alors, bon samedi et très bienvenue à votre magazine radio in situ dédié aux arts visuels et aux disciplines connexes toutes tendances. Alors, au micro, Chantal Heureux, à l'animation et à la réalisation de ce rendez-vous radiophonique hebdomadaire explorateur et créatif, hein, soutenu chaque semaine par notre dévoué technicien à la mise en onde, aussi assigné au montage, à la publicité, à la chronique occasionnelle. Et il s'agit de Robert Loca. Et aujourd'hui, plusieurs chroniqueurs de l'équipe in situ participeront à la chronique. Alors, il y aura Léna Guillot, Lila Maître, Sophie Pardot et Pierre Archambault qu'on va contacter au cours de l'émission pour qu'ils puissent nous faire part de leurs recommandations de films. Et je vous invite à visiter les différentes plateformes de l'émission sur Facebook et WordPress, magazine radio, magazine in situ. On enlève le mot radio pour un complément d'information. Alors, quelle belle journée aujourd'hui, ce samedi 20 mars, pour parler du Festival international du film sur l'art. C'est toujours un enthousiasmant à chaque printemps, à chaque mois de mars. Et la 39e édition du FIFA a commencé en grand mardi soir passé. Alors, au programme, eh bien, on a pu bénéficier depuis mardi passé d'une avalanche de 249 films en provenance de 41 pays. C'est quelque chose. Et de plus, différentes expériences nous sont proposées, des cartes blanches offertes à des artistes, des institutions, des organismes. On a aussi une section FIFA expérimentale que la programmatrice Nicole Gingras nous a présentée la semaine passée. Une section vidéoclip interactive et réunissant 6 œuvres web créées par des artistes du Québec ou qui ont été de passage au Québec, réunies sous le titre Vague. Et je vous dirais que ce qui est à voir, ce qui est très original cette année, c'est le projet FIFA interactif qui se nomme le Magasin, créé en collaboration avec l'Usine C. Alors, c'est une première, une nouvelle expérience proposée par le FIFA et avec en toile de fond, bien sûr, le déclin de l'activité commerciale, des rapports sociaux. Alors, ça promet, je n'ai pas pu m'y rendre, mais je vais tenter de m'y rendre au cours de la prochaine semaine. Et il y a aussi des entrevues qui sont diffusées sur Facebook. Il y a des entrevues chaque jour. Alors, ne manquez pas, c'est très actif. La 39e édition en ligne nous propose vraiment des expériences des plus diversifiées. Ce projet de magasin, par contre, n'est toutefois pas inclus dans le passeport de la 39e édition du FIFA. 39e édition du FIFA, ce qui est particulier cette année, c'est qu'on doit acheter un billet au coût de 39,99 et ça nous donne accès à tous les films durant toute la durée du festival. Alors, c'est abordable, mais en même temps, si on souhaite ne voir qu'un film ou deux, bien, ça comporte que certains inconvénients. Mais au cœur du festival, eh bien, il y a toute la programmation de films. Alors, place aujourd'hui à des recommandations de films, hein, en commençant par Léna Guillot, que nous allons joindre après cette musique, une musique qui accompagne une magnifique vidéo, je vous dirais, titrée de Fourfold. Et c'est de la cinéaste de Mongolie, Alice Telengut, sélectionnée par Caroline Monet, hein, qui est une artiste visuelle vedette, à qui le FIFA a proposé cette année carte blanche. Alors, et c'est vraiment une vision du monde transmise dans le film, basée sur les anciennes croyances animistes et les rituels chamaniques en Mongolie. Alors, la musique, donc, évocatrice, eh bien, elle est celle du groupe de musique Youyoumtou et des voix bulgares Angelit. Alors, place à cette musique et au retour, on s'entretient avec Léna Guillot. Bonjour, Léna Guillot. Est-ce que je parviens à te joindre sans difficulté?
Bonjour, mon ami Chantal, et bonne fête, ma chère amie.
Merci beaucoup. Tu as dévoilé finalement le secret du jour. C'est mon anniversaire. Merci, Léna. Ça me
exactement.
Fait plaisir.
Exactement. T'es chanceuse. C'est une belle journée.
Merci
alors,
beaucoup.
J'ai compris qu'on a besoin d'économiser le temps.
Mais malheureusement, on a eu quelques petits problèmes techniques en début d'émission, mais ça ne diminuera pas pour autant tout notre enthousiasme. Merci beaucoup, Léna, de nous faire part de tes suggestions de films.
Bon, alors, je vais partir tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir... le public va pouvoir entendre toutes les bonnes suggestions à venir.
Oui.
Alors moi, j'ai choisi la pique un petit peu histoire de l'art parce que j'adore ça.
Oui.
Plutôt que d'autres aspects qui figurent dans le festival que j'espère que le public va profiter. Donc, le premier film dont je vais parler, c'est Modigliani et ses secrets.
Oui.
Alors, le peintre Modigliani a œuvré dans le Paris de la période dite École de Paris où les artistes étrangers comme Picasso, Chagall, Soutine s'installent dans la ville à Montmartre. C'est eux qui ont fait les premières étapes, qui ont changé l'art pour qu'elle devienne ce qu'on connaît aujourd'hui avec toutes ses formes, etc.
Oui.
Donc, lui, qu'est-ce qui est vraiment fascinant de sa démarche? D'abord, le film est réalisé par Jacques L'Œil.
Oui.
Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a étudié ici à Montréal, puis là, maintenant, il travaille en France. Donc, le film a été réalisé en France. Ça illustre l'époque avec de Modigliani et sa vie. C'est qu'on suit toutes les étapes de sa vie, mais contextualisé avec les films d'époque, les films d'archives, les photos qui retracent sa vie avec sa famille et tout ça. Et principalement, ses collectionneurs et les œuvres qu'ils ont pu préserver pour se rendre jusqu'à l'étape où aujourd'hui on vérifie l'authenticité des Modigliani avec la nouvelle technologie.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Alors, c'est un film qui est éblouissant de beauté parce
absolument.
Que tout à travers le film, on voit des œuvres que moi, j'ai des œuvres que j'avais jamais vues de lui qui m'ont beaucoup éblouie, comme sa série de nus.
Absolument.
Qui a fait vers la fin de sa carrière. On en connaît quelques-uns, mais il y en avait beaucoup. Il en a fait beaucoup, finalement.
Oui, puis on découvre sa période de sculpture. Moi, j'ai vu ce film-là, qui est un coup de cœur pour moi aussi. Et on découvre sa période de sculpture, hein, qui ne fera que quelques temps, dû à une santé fragile. Et là, on voit l'évolution de la forme à travers la série de sculptures, hein.
C'était magnifique.
Oui.
Puis c'est vraiment la sculpture qui l'intéresse parce que même, j'avais vu une exposition au Musée des Beaux-Arts, ça fait plusieurs années, puis il y avait beaucoup, beaucoup de ses dessins. Puis il était obsédé au début de sa profession à réussir à faire une ligne tellement parfaite dans son dessin qu'elle serait sculpturale. C'est pour ça que ses toiles sont... On voit pas beaucoup de détails, mais il essaie de rendre le détail comme une sorte de sculpture, mais transmis par le dessin et la peinture.
Oui, c'est
donc,
intéressant ce que
c'est
tu décris.
C'est probablement parce qu'il avait pas la santé de faire les sculptures qu'il aurait aimé faire qu'il a décidé de prendre ce chemin-là. On le saura jamais, mais il était vraiment passionné de la sculpture.
Et pour toi, Léna, ce film-là est-il un film de qualité que tu recommandes?
Les films dont je vais parler sont tous des films de qualité.
Okay.
Que je...
Voilà. Voilà.
Alors, oui,
on peut
je
avoir...
le recommande beaucoup.
Oui.
Si vous aimez la peinture, vous allez adorer ça. Mon deuxième film, c'est Betty Boop. Betty Boop.
Et mon Dieu, que j'ai vu moi aussi, que j'ai adoré. Ça semble être ton cas aussi, Léna.
Oui, j'ai absolument adoré ce film-là. Mais il y a des c'est vraiment intéressant. D'abord, Betty Boop, pour ceux qui peuvent... tout le monde connaît cette icône-là.
Oui.
Parce que même aujourd'hui, à Montréal, tu vas aller dans certains endroits puis tu vas repérer des items où tu vas voir l'icône représentée dessus. C'est la petite madame avec la grosse tête des années 20, avec des petits cheveux frisés noirs puis les yeux immenses.
Très sexy, avec un look très sexy.
Très sexy au début de sa carrière, parce que c'était avant que... C'est ça qu'on découvre par le film. Ce que je vous raconte là, je l'ai découvert par le film. On découvre que quand le dessinateur qui s'appelle Max Fleischer, qui a créé son personnage, oui. puis qui a commencé parce que lui et ses frères ont commencé à travailler dans des usines à faire des bandes dessinées. C'était au début de la bande dessinée aussi. Il a créé une petite fille sexy. C'est intéressant dans le film, t'as dû remarquer la femme qui décrit les proportions oui. du personnage, qui a une tête de bébé, mais un corps de femme. J'ai trouvé ça vraiment fascinant, j'avais jamais fait la connexion. Mais à ce moment-là, quand ils l'ont créé, il n'y avait pas les lois qu'on a aujourd'hui. Là. Comment ça s'appelle le mot quand t'as pas le droit de présenter quelque chose? Là? Censure. Oui, il n'y avait pas lois de censure à Hollywood encore.
C'est un petit bonne femme d'un petit bout de femme.
Sexy. Puis as-tu remarqué dans le film
oui.
combien de fois qu'elle se fait déshabiller puis agresser?
C'est ça. Alors c'est un petit bout de femme sexy, mais qui était quand même assez féministe, hein? Oui,
et qu'on redécouvre. Elle est féministe dans un contexte où on voit qu'elle se fait régulièrement agresser, déshabiller, puis est toujours en train de se défendre contre ça.
Et on la redécouvre.
Elle se répare, par exemple, qui est pas trop. C'est que dans ses films, elle réussit à se sauver du viol parce qu'elle donne une claque au gars, mais ça fonctionne pas toujours dans la vraie vie. Donc, essayez pas ça, limite, mesdames.
Alors, on redécouvre.
C'est vraiment fascinant. J'ai adoré les femmes oui. qui ont discuté dans le film.
Oui.
Il y a la fille de Max Fleischer qui s'appelle Jill Monahan. Jenny Mahoney.
Oui.
Et puis, des expertes qui sont Chantal Thomas, Mélissa Laveau. Et une découverte encore pour moi, l'artiste Victoria Modesta, je la connaissais pas. Ça, c'est une artiste contemporaine qui est influencée par le personnage de Betty Boop. Donc, ça, c'était aussi un film vraiment recommandé pour ceux qui sont intéressés de voir comment les femmes ont fait du chemin politiquement et socialement. On a encore du chemin à faire, mais quand on voit l'original petite Betty Boop, là...
on redécouvre là, à quel point Betty Boop a aidé à améliorer la situation des femmes, allant même jusqu'à se présenter à des élections. Et puis voilà, elle n'a pas pu survivre, par contre, au-delà de 1939, puisque la censure a commencé à s'installer et on est obligé de... Voilà. Mais c'est un film vraiment très... qui a beaucoup d'humour et qui est rafraîchissant. Il faut voir absolument ce film-là. C'est incontournable, je suis absolument d'accord. Et tu as vu un troisième film, Léna, vraiment, je suis contente, le film sur le Vatican.
Exactement. Là, on s'en va dans une film, toute autre dimension. Puis quand on parle
oui,
de
j'avais nommé le titre.
Ça, c'est l'histoire au grand.
C'est Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle. Voilà.
C'est ça. Donc, les réalisateurs du film, Marc-Jean Polsky et Marie Thierry, nous emmènent carrément aux origines du Vatican. Puis bien sûr, le point d'intérêt qui est extraordinaire, c'est la richesse incroyable du Vatican. Oubliez le Louvre, oubliez n'importe quel collectionneur, oubliez tout le monde. Il n'y a pas personne sur la Terre qui a plus de richesse artistique que le Vatican. Alors, on retourne directement aux origines. C'est tellement bien fait, il y a tellement de détails qui sont bien, ça va assez vite, on découvre chose après chose après chose.
Oui.
C'est en montant le sous-sol du Vatican et dans le passé en même temps.
Oui.
Il y a un architecte contemporain qui reprend toutes les données puis il recrée avec l'art numérique, il recrée toutes les images avec l'historique du temps qui évolue puis de la structure qui évolue. Puis, c'est incroyable les profondeurs de l'édifice quand ils vont retrouver le premier tombeau de Saint-Pierre
oui.
sur lequel le Vatican continue, comme chaque plancher qui a eu des rénovations à travers le temps. Puis dans le film, vous voyez les rénovations et le pourquoi des rénovations qui est très important.
Alors, écoute, c'est un film absolument d'importance, d'intérêt.
On marche dans les corridors oui. Du Vatican, on oui. voit des œuvres d'art. Les artistes qui sont représentés, par exemple, t'as pas juste... On sait très bien que Michel-Ange a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je découvre aussi, d'ailleurs, la participation architecturale de Michel-Ange sur le Vatican, oui. dont je connaissais pas.
Oui.
C'est lui qui, finalement, a travaillé le plus sur la fondation de la coupole.
Et là, oui.
Ça, j'ai quasiment tombé à terre. J'avais jamais su ça. J'en reviens pas. C'est ça qui est important du FIFA. On découvre des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Et puis, donc, y a Leonardo da Vinci, oui. de Bellini, Giotto, Le Caravage. Mais ils ont aussi des Van Gogh, Matisse, Chagall, Mondrian. Et donc, mais j'ai dit que, pour, à ma connaissance, les seuls artistes qui sont pas encore représentés au Vatican sont les artistes féminins. Alors, ils ont du chemin à faire.
Oui, voilà. Alors, Léna, merci beaucoup de tes recommandations. Hein? Alors, on reprend les films dont tu as parlé, que tu recommandes fortement, Modigliani, Ses secrets, Betty Boop Forever et Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle. Merci beaucoup, Léna, de nous avoir présenté.
Bon visionnement, tout le monde.
Merci et bon festival. Hein? Ça n'est pas terminé peut-être pour toi, Léna. Alors, on passe en musique avec la musique de Jorge Pardo. Donc, un solo de flûte, un film trans qui met en vedette Jorge Pardo, grand musicien, programmation du FIFA. Bonjour, Léla Maître. Est-ce qu'on te joint?
Oui, bonjour. Bonne fête.
Merci. Oui, émission le jour de mon anniversaire. Je suis comblée. Quelle belle journée, quel beau samedi ensoleillé. Alors, tu as des recommandations de films pour nous, Léla. On t'écoute.
Oui. Alors, pour aujourd'hui, donc, j'ai sélectionné trois films du FIFA qui m'ont particulièrement interpellée. Donc, les trois films, en plus, ça, c'est des disciplines qui sont assez diverses.
Oui.
Le premier film que j'ai sélectionné, ça s'appelle The Vasulka Effect. Et la réalisatrice, alors j'espère que je ne vais pas trop écorcher son nom, qui s'appelle Ranildur Gunnarsdóttir, qui est une réalisatrice islandaise. Et en fait, le film donc va suivre les artistes Woody Vasulka, qui lui est d'origine tchèque, et Stena Vasulka, qui elle est islandaise. Donc ce sont un couple. Et en fait, on va les retrouver donc chez eux. Et le film va d'abord retracer toute leur histoire. Donc eux, ce sont des pionniers de l'art vidéo. Donc dans les années 60.
Mmh, c'est intéressant. Oui.
Ils se sont rencontrés à Prague donc dans les années 60. Puis en 1965, ils ont déménagé à New York, et c'est là qu'ils ont commencé à produire de l'art. Lui, il a étudié le cinéma et l'ingénierie, et elle, à la base, elle est musicienne.
Oh.
Donc, ils ont d'abord commencé à créer de l'art vidéo plutôt documentaire. Donc, on va voir toutes les images d'archives des soirées des années 1960 avec tous les artistes, les artistes vidéo, vu que c'est le début de l'art vidéo. Donc, on a par exemple le Nam June Paik et tous ces artistes-là. Et petit à petit, ils ont commencé à avoir des vidéos, à produire des vidéos plus expérimentales. Donc, on va les voir avec toutes leurs machines qui vont essayer un peu de bidouiller tout ça pour avoir plein d'effets vidéo qui sont assez incroyables pour l'époque. Et puis, en plus, comme elle, Stena, est musicienne, ils vont aussi beaucoup relier la vidéo et la musique en essayant, par exemple, quand elle joue du violon, elle est violoniste, de créer une sorte d'image vidéo avec des rayures un peu donc qui est relié au son et puis ensuite on les retrouve aussi parallèlement chez eux donc aujourd'hui donc ils ont à peu près 80 ans et puis on les voit dans leur maison où qui s'entassent des centaines de disques durs avec toutes leurs archives donc c'est assez impressionnant tout le travail qu'ils ont laissé aujourd'hui et puis on va voir aussi donc le travail de quelques fondations d'archivage et puis aussi l'héritage qu'ils ont donné pour les artistes d'aujourd'hui au niveau de l'art vidéo. Donc c'est vraiment un film, ils sont touchants à voir donc aujourd'hui. Et puis, c'est ça, on voit un peu le passé, on voit tous les débuts, même avec tous les artistes connexes de l'art vidéo.
Oui.
Et puis, on les voit aujourd'hui. Donc c'est vraiment un film qui est très agréable à voir. Mais c'est un couple qui est vraiment très sympathique.
Oui, bonne recommandation. Et surtout de voir ce film qui explore l'art vidéo. Alors, c'est original. Un film qui se démarque par son originalité. Il y a peu de films sur l'art vidéo. Merci. Très bon choix. Et il y a un autre film là, qui t'intéresse.
Oui, alors le deuxième film que j'avais sélectionné, donc celui-là, ça s'appelle La Grande Marche des Petites Choses,
oui,
qui a été réalisé par une réalisatrice française qui s'appelle Aurélie Collignon,
oui,
et aussi par Raphaël de Groot. Et donc ça suit cet artiste, donc Raphaël de Groot, qui est donc une artiste montréalaise,
oui,
qui son travail qui a été exposé dans plusieurs pays du monde, qui est une artiste qui est quand même assez importante. Et en fait, elle centre surtout son travail sur les territoire et beaucoup sur les rencontres.
Oui.
Et ce film-là, donc ça va tracer ce projet-là, donc La Grande Marche des Petites Choses, où, qui a été fait en France. Et en fait, l'artiste, elle a fait une marche de plusieurs jours,
oui,
qui traverse la Seine-Saint-Denis, donc qui est en banlieue parisienne, donc toute la Seine-Saint-Denis, et qui arrive jusqu'à Paris. Et en fait, cette marche-là, elle l'a fait en compagnie des jeunes habitants des quartiers. Donc, la majorité sont issus de l'immigration. Et donc, elle va faire toutes ces rencontres-là. Et pour cette marche, elle a aussi créé comme une sorte de grande traîne.
Oui.
Donc, qui est un grand tissu blanc où elle a imprimé des photos de divers endroits de la banlieue qui ont été prises par les jeunes. Donc, par exemple, on a des bâtiments où on a aussi la forêt, parce qu'il y a des petits coins de forêt aussi en Seine-Saint-Denis. Et pendant cette marche-là, l'artiste et puis aussi tous les gens qui l'accompagnent vont ramasser tous les objets trouvés. Donc il va y avoir plein des boîtes de cannes ou des cailloux, plein de choses qui ont été trouvées et qui ensuite vont être accrochées sur cette traîne-là. Donc ce projet, il est vraiment intéressant parce qu'on la voit marcher donc avec la traîne et toutes les personnes qui l'assistent. Puis c'est aussi un moyen pour elle de recueillir plein de témoignages sur tous ces gens-là, sur l'immigration, sur la vie aussi dans les quartiers de la banlieue parisienne, qui sont des quartiers quand même assez pauvres comparés à l'intérieur de Paris. Et donc c'est au niveau des rencontres, c'est vraiment très intéressant d'entendre aussi tous ces récits-là. Et puis à la fin, le film finit à la Nuit Blanche de Paris où elle va justement accrocher cette traîne-là et l'exposer dans Paris.
Et c'est un parcours qui est basé sur un petit peu l'ancien aqueduc romain. Alors on suit l'ancien aqueduc romain.
Oui, c'est ça. Et donc, en plus, on a un petit peu d'histoire aussi de Paris, puisque en suivant tout le chemin de cet aqueduc, puis même on va aller voir les sous-sols aussi de Paris. Donc, il y a aussi tout le côté historique où la banlieue, à l'époque,
un beau film
la forêt, c'était avant d'être la ville.
C'est un beau film que j'ai vu, que j'ai apprécié énormément aussi. Une autre belle recommandation. Et pour terminer, Lila, tu as vu un court-métrage, hein? Soldier's Story. From Iraq and Afghanistan, le processus de l'artiste, The Process Artist, oui.
C'est ça. Donc, en fait, ce film, il a été réalisé par Jennifer Karadi, qui est aussi donc l'artiste qui centre donc ce travail de cet artiste-là. Et en fait, elle, c'est une photographe américaine et elle produit un projet sur les anciens vétérans américains qui étaient qui ont fait la guerre en Irak et en Afghanistan. Et en fait, on va la suivre dans la production d'une photographie. Donc, ça commence avec la rencontre avec une ancienne vétérane qui est Lucero Morales. Et donc, d'abord, elle va lui apporter un témoignage sur la guerre et puis surtout sur les traumatismes que lui ont laissé cette guerre dans sa vie de tous les jours. Maintenant, elle est devenue mère de famille, elle est revenue aux États-Unis. Mais il y a quand même ce traumatisme-là qui est resté et qui surtout se traduit, par exemple, avec la panique qu'elle a quand elle ouvre une boîte de pâte à biscuits et quand il y a le pop qui fait pendant cette ouverture-là, elle panique parce que ça lui rappelle donc les grenades et toutes les armes et le bruit aussi de la guerre. Donc c'est quelque chose qui la fait paniquer et qui se traduit dans son quotidien. Et donc, l'artiste, elle, via ce témoignage-là, elle va essayer de retranscrire le traumatisme de cette ancienne militaire. Et donc, on va la voir parler vraiment. C'est comme une coproduction qu'elles font toutes les deux. Donc, l'artiste, ensuite, va essayer de trouver un décor. Elle va essayer de construire une sorte de boîte à biscuits explosive pour montrer un peu le traumatisme qui traduit. Puis, on va la voir donc faire la mise en scène, donc dans une cuisine avec cette militaire-là, ses enfants, et puis elle va montrer donc le contraste entre la guerre qui reste dans la mémoire de cette soldat-là, mais en même temps la vie quotidienne qui a repris son cours. Donc c'est vraiment intéressant de voir en fait tout le processus de création, que ce soit par tout le début où elle rencontre cette militaire jusqu'au processus final, donc qui est la production de la photo et puis la production finale. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment cet artiste-là travaille chaque image.
Merci beaucoup Lila. Donc 3 films que tu recommandes?
Oui, grandement.
Merci beaucoup de ton enthousiasme. Alors, je rappelle les films dont tu nous as parlé, de Vasulka Effect, La Grande Marche des Petites Choses, avec l'artiste vedette Raphaël Legroot, et Soldier Stories, From Iraq and Afghanistan, The Process Artist. Merci beaucoup. Alors, à suivre, on se reparle bientôt pour une autre chronique, très bientôt. Merci, bonne fin de semaine.
Bientôt, merci Chantal.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal. Forte de plus d'un siècle d'expérience, la maison Urgel-Bourgie-Atos a su au fil des ans s'ajuster à une société en évolution constante en proposant un ensemble de services adaptés aux besoins spécifiques de ses différentes communautés. Dans le respect des normes sanitaires actuellement en vigueur, Urgel-Bourgie-Atos propose Aimé Maurice, un registre funéraire en ligne ainsi que la captation gratuite des divers rituels pour diffusion via le web en direct ou en différé. L'entreprise tient en terminant à témoigner son soutien à la communauté art visuel durement éprouvée en cette période de confinement. Urgel-Bourgie-Atos pour ériger un monument dans votre mémoire.
Bon anniversaire.
En ce 20 mai consacrant l'arrivée du printemps, l'équipe In Situ joint sa voix à celle du personnel de Radio Centre-Ville et de l'ensemble de la communauté art visuel pour souhaiter à Chantal Lheureux un joyeux anniversaire. Non, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est Chantal qui le fait.
Merci Robert, que je suis absolument touchée par ce message auquel je ne m'attendais pas du tout. Merci Robert, merci à l'équipe. Alors, on poursuit avec Sophie Pardeau que je joins au téléphone. Sophie?
Oui, je suis là.
Oui, voilà. Alors, ma chère Sophie, je sais que tu étais en train d'en plein FIFA jusqu'à hier soir très tard.
Oui.
Alors, tu nous parles de 4 films que tu as sélectionnés. Bon. En bref.
Alors, ces films, en fait, je dirais qu'ils ont un point commun, tous. Ils regroupent tout ce qui est le développement et le contexte communautaire, et ils développent toutes les valeurs humaines qu'on peut retrouver donc chez l'être humain. Alors j'ai été au film d'ouverture de Beijing Spring.
Merci.
C'est un film de Andy Cohen et Gaylin Ross.
Oui.
Je vous recommande vivement ce film parce que ils ont regroupé des archives inédites alors que ça faisait depuis 40 ans qu'ils n'avaient pas mise en lumière ces archives.
Oui.
Donc, on comprend très bien finalement toute la complexité qu'il y avait à l'époque de la révolution culturelle en Chine. Et il y a donc ces artistes qui, après une longue période de censure, se sont unis et ont finalement exposé toutes leurs œuvres sur un mur de la ville qu'ils appelaient donc le mur de la démocratie, et sur lesquels toute la population pouvait voir tout leur travail pour revendiquer, finalement, ces artistes revendiquaient le droit à l'expression alors que les autorités chinoises étaient redoutables à l'époque. Bon. On voit très bien tout le fil au fil des années, tout le fil de l'histoire chinoise également, que ce soit politique et artistique. Donc, c'est un film d'art engagé. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est très très bien documenté, c'est très précis. Ils ont vraiment réussi à faire le lien entre, mettons, ils prennent en photo un artiste et ils vont vraiment expliquer le travail d'une de ses œuvres. Et on voit au travers des photos, ils ont retrouvé des photos, excusez-moi, je suis tellement excitée. Là.
Oui.
Ils ont retrouvé des photos pendant les manifestations également. Donc, on fait vraiment tout le lien et c'est super intéressant. Et puis, évidemment, c'est étant donné qu'à l'heure actuelle, la population prend position dans la vie politique, actuellement, dans tous les pays, avec la pandémie, etc. Donc, ça vient nous toucher vraiment en particulier. C'est un peu, on ne vit pas, évidemment, peut-être pas aussi intensément les événements qui ont eu en Chine à l'époque, mais on est touché vraiment. Je vous le recommande vivement.
Oh,
donc, je vais enchaîner avec un autre film, le Japon. Je vous emmène au Japon, Akiji, The Breath of the Mountain. C'est un film de 73 minutes. Et alors là, évidemment, on plonge dans l'atmosphère japonaise avec les thèmes fondamentaux de la pensée japonaise. Il y a peu de paroles. C'est un film très contemplatif.
Intéressant.
Et c'est un artiste calligraphe. Il pratique aussi l'art du sabre et la cérémonie du thé. Il vit avec sa femme en forêt et il vit finalement au fil des saisons et du temps. Et donc en fait c'est un film qui effectivement souligne poétiquement le cycle de la vie. Donc ça nous amène à un retour au sens de la vie, de la nature, des fondamentaux. Et ça permet finalement de se reconnecter à soi, au corps, à l'univers sensoriel. Et il s'en dégage finalement aussi une transmission aux génération suivante. Donc c'est excellent, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais enchaîner, je vous amène en Afrique. Le film s'appelle En bonne compagnie chez les grandes personnes de Boromo. Un film de 1h20.
Et c'est une première fois qu'on a un film sur des marionnettes. Hein? C'est une première collaboration avec le Festival des Casteliers. J'aurais voulu voir ce film et tu l'as vu pour nous, merci.
Ouais. Je pense que c'est Amnesty International qui présente ce film d'ailleurs, okay. Il me semble. Là aussi, un film très sincère, dans le sens où les grandes personnes de Boromo, ce sont des marionnettes géantes d'Afrique qui se produisent dans tout le continent finalement. Et ils vont à la rencontre de la population. Et donc en fait, on voit, le film met en lumière les personnes qui se cachent sous ces géants finalement et qui unissent toute la communauté au Burkina Faso, parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a beaucoup d'ethnies. Et en fait, c'est une façon de rallier les ethnies au travers de la culture. Et donc, ce sont finalement des commerçants, des saisonniers, des chefs de famille, des paysans qui participent à ce festival, finalement. Et comme il explique, ils se déplacent, ils vont chercher finalement à émouvoir la population qui n'a pas toujours les moyens d'aller voir des spectacles ou dans les salles de spectacle, évidemment.
Oui, c'est l'art qui va vers les personnes.
Il y a un aspect vraiment communautaire et avec de superbes valeurs humaines en fait qui sont.
Et de superbes marionnettes, j'imagine aussi.
Ouais. C'est des grandes marionnettes. Moi, ça me fait penser à l'art. Moi, je suis espagnole. Et en Espagne également, il y a des festivals de marionnettes géants dans les rues. Et je me souviens, quand j'étais petite aussi, j'ai vécu ça. C'est toute la ville est en effervescence où les enfants finalement courent après les marionnettes et finalement s'il y a des litiges entre les ethnies, eh bien grâce à cette super énergie positive, évidemment ça nous remet aux vraies valeurs, ça nous ramène aux vraies valeurs en fait.
Oh, ça fait du bien de t'entendre.
Je vous recommande également. Et alors je vais aller avec le dernier.
Oui.
Le dernier film, c'est un film de 1h40.
Oui.
C'est un long film, mais qui est aussi
quel est le titre?
Très intéressant. Il est de Henry Glassy,
okay.
Qui est un professeur qui s'intéresse particulièrement au folklore.
Oui.
Et en fait, il se déplace et puis il va à l'encontre des artisans qui réalisent des œuvres d'art dans leur communauté. Donc on voit des sculpteurs qui sculptent, qui réalisent des figures religieuses en argile. On voit travailler un graveur sur bois, un sculpteur sur bois. Il y a une autre personne qui fabrique des sculptures en métal qui soude. Et on voit aussi des artisans qui font des pots géants dans des grands fours immenses. Et on voit là, en fait, il met en valeur la grande sagesse, la passion, la dévotion. Et en fait, sa façon de le filmer, c'est qu'il est là présent et il observe et analyse ce que les artistes choisissent dans leur processus de création. Quels sont leurs choix de représenter pour représenter leur propre personne et quelle est leur façon de s'exprimer en tant qu'être humain. Donc c'est une exploration du savoir-faire local, une réflexion de on entend les réflexions de l'auteur qui fait partie de ses expériences en fait. Et en fait, on est à l'écoute des autres cultures, en effet.
Alors, donc, une programmation, Sophie. Oui, une programmation vraiment très humaniste.
J'espère que j'ai réussi à vous faire.
Oui.
À vous donner envie d'aller voir ces films.
Alors, une programmation une thématique très humaniste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Sophie, vraiment d'avoir vu ces films pour nous. Ce sont des films consistants, mais qui apportent beaucoup, procurent beaucoup de bien-être. Je rappelle les films que tu recommandes. Je pense que tu les recommandes les quatre.
Oui.
Tout à fait. Le film d'ouverture, merci d'avoir représenté In Situ à l'ouverture du festival Behind Spring, Akeji de Brave Mountain, of the Mountain, en bonne compagnie chez les personnes de Boromo et Henry Glassie Fieldwork. Merci beaucoup, Sophie.
Je vous en prie.
Et moi, je vais vous recommander extrêmement brièvement mes deux films. Je recommande deux films. En fait, c'est que plusieurs de mes coups de cœur ont été retenus par mes collègues de l'émission. Alors, voici deux films en plus qui m'ont captivé. Le Louvre des ménages, réalisé en 2019 par le duo de cinéastes Agnès Molia et Michael Lefrançois. Film captivant qui, vraiment, qui concerne le nécessaire déménagement de 250 000 œuvres en réserve et qui ont été accumulées pendant 700 ans, dont une partie sont sous le niveau de la Seine. Alors, à chaque crue, le musée craint le pire. Alors, il a donc été décidé de transférer les œuvres dans un nouveau lieu d'entreposage construit à Liévin, à 200 km du Louvre. Alors, le documentaire très rythmé nous présente les réactions face à cette décision controversée en raison de l'éloignement des œuvres et nous informe sur tout le processus laborieux préparatoire pour déplacer chacune des œuvres. Alors, l'inventaire, le dépoussiérage, vraiment, la numérisation, la protection des œuvres. Voilà. Alors, c'est captivant, ça passe très vite. Autre film émouvant d'actualité, vraiment, oui, c'est de 21st Century Borderland, du duo de cinéastes Ava Willen et Raphaël Solazar Morena, qui nous permet de découvrir les interventions artistiques d'un groupe d'artistes le long de la frontière américaine-mexicaine. Tania Aguini, artiste, designer et activiste d'origine mexicaine en Venelini ou Tijuana. Le photographe américain de renom Richard Misra, qui explore les collisions nature-culture autour de ce fameux mur. Le collectif artistique multidisciplinaire Post-Commodité et basé en Arizona et Nouveau-Mexique. Et ils ont notamment installé une série d'œils indigènes à proximité de la frontière américaine-mexicaine. Mais le clou du film, c'est vraiment bel et bien l'œuvre d'architecture relationnelle qui a été installée au mur. Un concept qui allie technologie numérique à l'architecture afin de créer des installations performative. Alors, on parle bien sûr de Lausanne-Ouémer. Et puis, c'est dans ce film qu'on peut apprécier tout l'impact de l'œuvre de l'artiste qui a permis des échanges très émouvants entre Mexicains et Américains au mur à l'aide des faisceaux de lumière, de micros, de simulations de battements cardiaques saisissants. Alors, fort heureusement qu'on a appris que la construction du mur a été suspendue par le nouveau président Biden. Et vous pourrez voir des suggestions de courts-métrages que j'ai vus en grand nombre sous peu sur la page Facebook du magazine In Situ.
Georges Laoune, opticien, soutient la communauté art visuel et la diversité culturelle en présentant régulièrement des expositions dans sa succursale du 42 rue Saint-Denis et du 1396 rue Sherbrooke-Ouest. Jusqu'au 27 mars, dans le cadre de la 30e édition du mois de l'histoire des Noirs, vous êtes invité rue Saint-Denis, coin du Lutte, à l'exposition collective Cheminement. Afin de célébrer la venue du printemps, Georges Laoune tient aussi à souligner l'arrivée en magasin de ses nouvelles collections de montures issues de créateurs indépendants. Georges Laoune, un nouveau regard sur les arts visuels. Lancée le 1er mars, la campagne annuelle de financement de Radio Centre-Ville se poursuit jusqu'au 31 mai. L'argent recueilli servira non seulement à soutenir vos émissions préférées, mais aussi à contribuer au projet de vie de la grande rénovation. Dans le cadre de ce projet, nous entendons rapprocher la radio de la communauté en déplaçant nos installations vers le rez-de-chaussée vitré donnant sur le boulevard Saint-Laurent. Cette campagne a été placée sous le patronage de Franz Benjamin et Ruba Gazal, élus sensibilisés à la cause. L'objectif est de 50 000 $. Pour effectuer un don, activez simplement le lien grande-rénovation.org. Donnez généreusement. L'argent ne fait pas le bonheur.
Alors, une performance sonore de un extrait de performance sonore de Cécile Le Tellec en vedette dans le film L'Atelier 205, dont tu vas entre autres nous parler. Pierre Archambault, est-ce qu'on te joint? Est-ce que je te joins?
Oui,
oui, bon,
là,
tant mieux. Voilà, merci d'avoir vu pour nous un grand nombre de films, je croirais. Tu as fait une sélection des meilleurs films pour nous.
Oui, en date, j'ai vu une quinzaine de films.
Wow.
Je tiens à te souhaiter bon anniversaire.
Oh, merci, merci. Ça me touche. Allons-y pour tes suggestions. Merci, hein, parce que je sais que tu travailles très fort.
Frank Lloyd Wright, le grand architecte américain, un véritable roman, c'est incroyable, une vie pareille. Il est décédé à 91 ans. Il est né en 1867 au Wisconsin. Et en première partie, on voit le propriétaire d'une de ces résidences que Wright a construite. Il s'appelle M. Boyle et il nous parle du caractère de M. Wright, de l'architecte, qui est considéré comme le premier architecte écologique au début du siècle. Alors, c'est quand même important. Et il va se marier à l'âge de 22 ans avec une femme qui était une intellectuelle très libre d'esprit. Et lui-même était très dandy. Il prenait très soin de ses vêtements. Et c'est lui-même qui dessinait ses vêtements.
Oh.
Et il a eu plusieurs maîtresses, dont la dernière qui avait 30 ans plus jeune que lui. Ça fait penser un peu à Picasso.
Oui.
Une des particularités de l'architecte, c'est que, d'abord ils se sont fait arrêter parce que monsieur ne payait pas ses comptes. Alors, un peu étonnant. Et un peu plus tard, il va ouvrir une école où les étudiants devaient payer à l'époque 600 $ par année pour être sous le patronage de Frank Lloyd. Et en plus, les étudiants devaient faire le ménage, servir le chauffeur privé et faire de l'agriculture. Alors, tout ça faisait partie de la formation qu'il offrait à ses étudiants. Et il y a la fameuse maison Falling Water qui est devenue une icône de l'architecture moderne, contemporaine, qui est toujours là et qui a été construite particulièrement au-dessus d'une chute d'eau alors dans la nature, en pleine nature. Alors, c'est quand
paradisiaque.
Même étonnant et très intéressant. Alors, on voit surtout de l'architecture résidentielle, pratiquement pas de bâtiments, sauf une au Japon, un bâtiment qu'il a construit là-bas. Alors, le film est d'une durée de 52 minutes. Merci. Alors, en ce qui concerne l'atelier 205, dont tu viens de faire jouer une des parties musicales, de Cécile Talec, que je ne connaissais absolument pas.
Moi de même.
Mais c'est fascinant, vraiment, son travail. Elle enregistre de toutes sortes de sons, mais particulièrement des oiseaux siffleurs. Et elle va dessiner des partitions à l'encre de Chine de ce qu'elle entend des oiseaux. Et le film est souvent réalisé un peu comme en négatif. Elle habite aussi une maison d'architecture organique
qui ressemble de
coupe volante.
Un coquillage qu'elle
va utiliser entre autres les ondes radio et les brouillages. Et elle fait des liens de ces ondes-là avec des chants des chamans. C'est vraiment, vraiment fascinant. Et elle va remporter un prix avec une tapisserie qui représente des chants d'oiseaux. C'est un graphisme des sons. C'est absolument magnifique comme œuvre. Elle travaille aussi la céramique. Elle conçoit des cornets sonores qui vont être exposés dans une église gothique toute blanche. Et on voit à la fin, elle va au Japon où là, elle enregistre le son des tourbillons de vagues de la mer. En tout cas, c'est un film que je reverrai avec beaucoup de plaisir.
Et moi de même, je l'ai vu, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un court-métrage qui est à peu près 27 minutes. Alors, ça se voit bien.
Alors, l'autre film, L'amour à l'œuvre, 26 minutes, film français. Alors là, on entre dans un monde vraiment très particulier. Ce sont deux femmes lesbiennes qui, au début, se font... on voit des photos, mais tout le film est construit comme une reconstitution de films d'archives en noir et blanc. C'est assez étonnant comme film. Et on voit entre autres des photos des deux femmes en pleine nature sur la plage, complètement nues. Elles sont très, très libres dans leur vie. Elles vont se faire arrêter, je crois, pour espionnage. D'ailleurs, deux fois, elles vont faire de la prison. Et elles habitent à Nantes. Elles parlent l'anglais, l'allemand et le français. Une d'elles, qui s'appelle Lucie, va tomber malade en 2013 et va mourir. Et l'autre, qui s'appelle Suzanne, fait des illustrations de mode. Elle fait aussi beaucoup de dessins, un peu dans le style Art Nouveau. Et elle va changer de nom pour Claude et s'habiller à la garçonne. Et les deux aimaient beaucoup se déguiser en toutes sortes de personnages. Elles vont publier un livre d'art, ce qui est tout à fait innovateur à l'époque. Et André Breton, le pape du surréalisme, va les présenter au groupe des surréalistes et les encourager. Et finalement, Claude meurt à l'âge de 58 ans d'un arrêt cardiaque et Lucie va se suicider à l'âge de 80 ans. Et on dit qu'elles reposent en paix ensemble dans le même cimetière.
Et elles ont été quand même...
Étonnant et que je recommande. Ça aussi, je le reverrai avec plaisir.
Oui, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Et n'oublions pas qu'elles ont quand même participé à la résistance du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y en a des questions aussi dans le film. Très, très bon choix de film. Je recommande fortement cet autre court-métrage.
Oui. Alors, autre film, La tentation du réel.
Oui.
Alors là, on plonge dans l'histoire. Tout début de la Renaissance avec en particulier un retable qui s'appelle L'agneau de Dieu le film est avec ce titre français parce qu'il y a beaucoup de flamands qui parlent. Alors c'est une œuvre des frères Van Eyck, Jan et Ivan Van Eyck qui sont des flamands. Et le rétable en question a comme dimension 5 mètres par 3 mètres. C'est énorme. Alors, c'est tout en bois. Et c'est comme un caisson. Donc, il y a les portes qui s'ouvrent à 4 volets qui sont peints. complète, entièrement, avec des scènes religieuses. Et quand on ouvre les portes, il y a d'autres scènes à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une œuvre magistrale et c'est le début aussi de la modernité hein, dans notre histoire occidentale. On les considère aussi parmi les primitifs flamands. Certaines des parties du polyptyque étaient reliées dans le haut au divin et plus on descend vers le bas du rétable, c'est des représentations profanes, dont entre autres les portraits des donateurs, parce qu'il y a plusieurs donateurs qui ont subventionné les artistes et tout ça se passe vers 1426. Et on dit que si ces artistes-là vivaient aujourd'hui, ils feraient du cinéma, tellement l'œuvre est une énorme mise en scène. Il y a entre autres la musique qui est représentée dans le rétable par une espèce de petit orgue où on voit un musicien et aussi il y a les anges chanteurs qui sont tout au haut du rétable. Et on nous amène aussi dans un musée où on peut voir un portrait de Jan van Eyck, un monsieur au visage un peu émacié avec un regard perçant. Il portait un turban rouge, un peu comme les Arabes. Et pour le tombeau, on ne voit maintenant que le contour. On dirait que tout le corps s'est effacé. C'est assez étonnant. Ils avaient un frère aussi du nom de Hubert qui est mort en 1420. Alors, on dit aussi qu'il n'avait aucune limite de budget pour réaliser cette œuvre-là, puisque les donateurs voulaient que ce soit une œuvre remarquable, mais aussi très, très innovatrice au niveau technique. Alors, c'est vraiment une œuvre maîtresse de l'histoire de l'art. On dit aussi que...
Alors, Pierre, il nous reste une minute.
Ivan a consulté des traités d'optique arabes pour réussir à peindre avec autant de réalisme les personnages et les objets qu'on voit dans le tableau.
Alors, Pierre, il nous reste une minute. Il faut parler du dernier film rapidement.
Oui, qui est le film sur Marina Abramović, une des pionnières de la performance. On l'entend, au début, on voit off dans la forêt. C'est vraiment, on voit de surprise en surprise dans ce documentaire-là. D'une part, en Allemagne, elle installe 3 salles en hauteur dont les échelles, les barreaux de cette échelle-là sont des couteaux à dépecer. Alors, imaginez. Et dans le haut, c'est 3...
Alors, Pierre, on doit te... Merci beaucoup, cher auditoire. On vous laisse. On aurait tellement aimé avoir plus de temps, mais merci. Bon festival et à la semaine prochaine.